Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. En moins de 20 ans, le nombre d'internautes au Maroc est passé de quelques centaines à plus de 21 millions, soit 60% de la population. Quel usage de l'Internet les Marocains font-ils ? On peut le savoir précisément en lisant « L'Internet au Maroc », un ouvrage collectif dirigé par l'ethnologue Souad Azizi et publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Logique Sociale. Ce livre questionne trois dimensions de cette utilisation au Maroc : militante, solidaire, relationnelle, et rend compte ainsi de la pluralité de ce média comme espace public alternatif. Souad Azizi est notre invité depuis Casablanca. En seconde partie d'émission, la revue de presse régionale croisée, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Nous sommes en ligne avec Souad Azizi, ethnologue à l'université Hassan II de Casablanca, fondatrice du réseau Usage et représentation de l'Internet au Maroc. Bonjour madame.
Bonjour Éric Bataillon.
Souad Azizi, constatez-vous une informatisation de la société marocaine aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Même si on est encore très loin du modèle de pays tels que l'Islande ou Singapour, et si l'on met entre parenthèses les régions rurales les plus défavorisées, qui ne bénéficient pas encore ou très peu d'une couverture réseau, on peut dire qu'en matière d'informatisation, le Maroc a fait des pas de géant en l'espace d'une vingtaine d'années. Depuis la fin des années 90, le pays s'est engagé dans un vaste programme d'informatisation qui touche nombre de secteurs et institutions clés de la société marocaine, cela en raison d'une prise de conscience à l'échelle nationale que le développement des NTIC est une question de compétitivité, voire de survie, dans une économie mondiale globalisée. Et cette volonté du Maroc de ne pas rester en rade des changements globaux induits par la révolution numérique s'est traduite par le lancement d'une vaste réforme des infrastructures du secteur des télécommunications et dans l'élaboration de plusieurs stratégies numériques nationales. Nous en sommes aujourd'hui à la troisième. Et le Maroc a également adopté une politique de libéralisation et de privatisation du marché des nouvelles technologies qui a permis de casser le monopole de l'État sur le secteur et de susciter concurrence et innovation là où auparavant il n'y avait que stagnation. Donc la commercialisation de l'Internet et de ses objets constitue un marché très juteux qui génère beaucoup de bénéfices pour les trois opérateurs en concurrence. Mais on peut dire que contrairement à d'autres pays où l'accès à Internet reste cher, ici il y a une réelle démocratisation. Et les prix des équipements, des abonnements Internet et des communications en général ne cessent d'être revus à la baisse, notamment grâce aux mécanismes de régulation et de développement du secteur mis en place par le gouvernement. Je vous donne par exemple la téléphonie mobile. Son développement a rendu possible aujourd'hui, avec une carte 4G d'une valeur de 10 à 20 dirhams, d'accéder à Internet pendant une heure avec une carte prépayée seulement 5 dirhams. Ce qui a permis d'accoutumer à l'usage du smartphone même les personnes qui n'ont pas des revenus réguliers, comme des étudiants par exemple. Et d'ailleurs, si on observe les chiffres des internautes marocains âgés de 12 à 65 ans, ceux qui accèdent à Internet via un smartphone sont plus de 98% aujourd'hui. Pour répondre à votre question, oui, le Maroc se classe aujourd'hui parmi les premiers à l'échelle du continent africain.
Alors les Marocains, justement, se sont manifestement appropriés Internet. Quel usage en font-ils ?
Alors les usages, ils sont multiples, comme ils peuvent être multiples en France ou ailleurs. Et le principal objectif, justement, de notre ouvrage collectif est de contribuer à la recherche sur ces usages de l'Internet par les Marocains. Et si on observe les dernières statistiques nationales, elles montrent que les principaux usages des internautes sont par ordre d'importance la participation aux réseaux sociaux, qui représente aujourd'hui 90%, le visionnement et le téléchargement de contenus multimédia, qui sont à plus de 76%, le téléchargement de logiciels et d'applications, qui représente 72%, et l'utilisation de messagerie électronique, qui représente aujourd'hui 71%. Donc, si vous voulez, ces statistiques, ces chiffres nationaux nous sont utiles pour connaître les grandes tendances des usages, mais elles sont loin de nous donner une quelconque visibilité sur les pratiques numériques concrètes de tel groupe social ou telle catégorie d'individus. Par exemple, savoir que 15 millions de Marocains utilisent quotidiennement Facebook ou qu'ils l'utilisent en moyenne tant d'heures ne nous apprend rien, nous, en tant que chercheurs, sur l'identité des groupes et individus en présence, sur la nature des relations qu'ils nouent sur ces réseaux, sur le contenu des discours échangés, ou celui des documents multimédia visionnés et téléchargés. Donc d'où l'intérêt des articles qui sont réunis dans notre ouvrage collectif « L'Internet au Maroc, militantisme, sociabilité et solidarité » dont l'objectif commun est de questionner les usages numériques spécifiques de communautés ou catégories d'individus particuliers à travers des études basées sur des enquêtes empiriques réalisées pour la plupart à la fois en ligne et hors ligne.
Alors justement, dans cet ouvrage, vous parlez dans un des articles de militantisme numérique des internautes. Qu'appelez-vous militantisme numérique ?
Pardon, ce sont tous ces usages qui ont pour objectif de mobiliser ou de revendiquer pour une cause ou une autre. On peut dire aujourd'hui que la toile marocaine est en quelque sorte devenue la caisse de résonance de toutes les grandes questions sociales et politiques qui taraudent la société marocaine. Premièrement, pour répondre à votre question, qu'est-ce que le militantisme numérique ? On observe des formes de militantisme assez classiques qui découlent de la migration vers le cyberespace de mouvements et organisations qui ont une certaine profondeur historique et sont organisées sur la base d'une hiérarchisation des rapports entre les dirigeants et les militants de base, et je pense notamment ici aux partis de l'opposition et aux syndicats, pour qui l'usage de l'Internet est souvent instrumental et laisse peu de place à la créativité ou aux expressions personnelles des membres. Deuxièmement, on observe de nouvelles formes de militance qui découlent de l'émergence de mouvements protestataires dont l'organisation est moins rigide et qui ne nécessite pas l'adhésion à un parti politique et permettent des modes de participation qui favorisent la créativité et la prise d'initiative chez leurs membres, notamment les plus jeunes qui ont une grande maîtrise des outils et de la communication numérique. Et je dirais que c'est dans le cadre des plus récents mouvements de revendication sociale qu'ont été peaufinées des formes inédites de militantisme depuis les mouvements de 2011, depuis le mouvement du 20 février, des formes inédites de militantisme qui prennent racine dans le cyberespace et s'expriment pour la plupart essentiellement en ligne à travers des médias citoyens, des forums de discussion, des podcasts, des vidéos délation ou d'autres formules comme les micro-trottoirs. Ces formes individuelles de cyberactivisme telles que le podcasting ou la vidéo délation nous amène d'ailleurs à revoir la définition classique du militantisme comme action collective protestataire, car le militantisme numérique peut être porté par des individus isolés qui ne se revendiquent d'aucun groupe en particulier, mais pour qui militer en ligne signifie, au sens premier du terme de militer, faire la guerre pour une cause auto-attribuée contre un ennemi autoproclamé.
Alors, il y a également un secteur qui se développe, et vous le pointez dans votre ouvrage, c'est la vidéo dite de charité. De quoi s'agit-il précisément et comment ce type d'expression est-il perçu par les internautes marocains ?
Alors, cette question a été traitée par Hassan Atrefi, qui justement donne une suite à son travail dans un ouvrage collectif qui va bientôt être publié et auquel ont contribué mes collègues qui ont contribué à l'ouvrage sur l'Internet au Maroc. Donc, ces vidéos charité, ce sont des appels à la solidarité dont Atrefi interroge les facteurs et les sorts à travers l'analyse d'un échantillon de vidéos relayées sur le site marocain Express. Cet auteur a dressé une typologie des formes de vulnérabilité exposées, des types de personnes qui lancent ces appels à la solidarité et des modes de communication qu'ils utilisent pour susciter l'empathie et les dons des internautes. Et sa typologie montre que la majorité des auteurs de ces appels à solidarité sont soit des personnes souffrant d'une maladie grave qui nécessite une opération et des soins très onéreux, soit des responsables de famille dans une extrême pauvreté. Premièrement, il identifie le facteur culturel qui fait qu'au Maroc, la charité envers les pauvres, envers les nécessiteux, qu'on appelle sadaqa en arabe, est encore très valorisée puisqu'elle est définie par l'islam comme un devoir religieux et une source de rétribution divine. Il identifie comme deuxième facteur le facteur socio-économique qui est manifeste dans la faiblesse de la sécurité sociale au Maroc, voire le non-accès à toute forme d'aide sociale d'une grande frange de la population marocaine. Et comme troisième facteur explicatif de l'essor de cet Internet solidaire, Hatifi identifie le facteur technologique qui réside justement dans la démocratisation de l'accès et de l'appropriation des outils numériques que je soulignais tout à l'heure, même par les plus démunis, et dans la possibilité que l'Internet leur offre de donner une visibilité très rapide et plus large de leur situation de vulnérabilité.
Alors, vous pointez le fait que le réseau mondial favorise un espace public alternatif pour les minorités. De quelle façon et surtout de quelle minorité parlons-nous ?
Alors, il s'agit notamment de communautés ou d'individus pour lesquels l'espace public est interdit, inaccessible ou tout simplement non souhaitable en raison de leur stigmatisation sociale ou de leur vulnérabilité physique. Par exemple, les membres de la communauté LGBT dont l'orientation sexuelle est criminalisée par le code pénal marocain. Par exemple, les jeunes irréligieux qui revendiquent le droit de ne pratiquer aucun culte et rejettent en bloc tous les dogmes religieux. Troisième exemple, les chrétiens marocains issus de familles musulmanes qui sont considérés comme des apostats et sont obligés de pratiquer leur messe dans des espaces privés. Autre exemple, les individus porteurs du VIH qui sont vus et traités comme des prostituées, des homosexuels ou des déviants sexuels, quelle que soit la manière dont ils ont contracté la maladie du sida, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle ou leur statut. Et dernière communauté qui est étudiée dans cet ouvrage, c'est les personnes souffrant d'un handicap également, pas seulement à cause de leur mobilité réduite, mais aussi parce que les regards et les stéréotypes négatifs à l'encontre des PSH ont encore la peau très dure au Maroc. Et pour toutes ces catégories, l'expression dans l'espace public hors ligne est donc difficile, voire dangereuse. Pour cela, elles n'ont pas d'autre choix que de recourir à l'Internet comme espace où elles découvrent une certaine liberté d'expression et de communication que leur garantit sa nature dématérialisée.
Merci Souad Azizi, fondatrice du réseau Usage et Représentation de l'Internet au Maroc.
Merci à vous, monsieur Eric Bataillon.
Nous étions en ligne avec vous depuis Casablanca, une ligne téléphonique qui malheureusement a vu sa qualité se dégrader au fil de cette interview. En tout cas, je renvoie à votre livre, L'Internet au Maroc, sous-titré Militantisme, sociabilité et solidarité numérique. C'est publié chez L'Harmattan dans la collection Logique sociale.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous prenons la direction de Jérusalem et du Caire pour lire la presse de la semaine en Israël et dans le monde arabe. Bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Boutchampi.
Bonjour.
Sans surprise, la tension dans le Golfe après l'attaque contre deux pétroliers fait la une de la plupart de vos journaux, à commencer par les journaux arabes, Alexandre.
Oui, tout à fait. Une attaque qui a eu lieu jeudi et qui a forcé les équipages des pétroliers japonais et norvégiens à abandonner leur navire endommagé par des explosions. Alors, pour la plupart des journaux arabes, c'est l'Iran qui est responsable de ces attaques. Il privilégie deux scénarios, celui des mines et celui de drones porteurs d'explosifs. Ils font le rapprochement avec le drone utilisé par les rebelles houthis du Yémen pour attaquer l'aéroport de Abha au sud de l'Arabie le même jour. Les journaux d'Arabie et des Émirats, d'où étaient partis les deux pétroliers, font état d'un branle-bas de combat dans les deux pays pour prévenir de nouvelles attaques. Seuls les journaux proches du Qatar n'accusent pas ouvertement l'Iran. Ils estiment qu'il faut attendre les résultats d'une enquête menée sous l'égide de l'ONU. Pour eux, il pourrait s'agir d'une manœuvre visant à justifier une agression contre l'Iran menée par les États-Unis, Israël, l'Arabie et les Émirats.
Et les pages économiques de la presse arabe analysent les conséquences de ces attaques sur le marché pétrolier, Alexandre.
Oui, et la première de ces conséquences, selon les journaux, c'est la hausse des prix du pétrole entre 2 et 4%. Une bonne nouvelle pour les producteurs de pétrole qui avaient vu les prix du brut tomber de 75 à 61 dollars pour le baril. Mais plusieurs analystes estiment que c'est une fausse bonne nouvelle. La menace qui pèse sur les exportations de pétrole à partir du Golfe pourrait refroidir les importateurs qui préfèrent s'approvisionner auprès de pays plus sûrs, faciles, sur un marché mondial en surproduction, de quoi affecter les revenus d'Arabie et des Émirats qui commençaient à peine à résorber leur déficit budgétaire.
Michel Paul, il est également question du Golfe dans vos journaux après les attaques contre les pétroliers.
Sujet constant de préoccupation en Israël. Pour Haaretz, ce n'est peut-être pas à Téhéran qu'il faut chercher les coupables de l'attaque dans le golfe Persique. L'Iran, explique l'expert du journal libéral, a trop à perdre dans cette affaire, même si elle fait figure de suspect immédiat et évident. Et cela précisément au moment où elle cherche à convaincre l'Europe de ne pas abandonner l'accord sur le nucléaire. Pour Israël Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, l'Iran joue avec le feu, un jeu double, mais le quotidien estime que Téhéran a déjà perdu la partie, car si le but de l'attaque était de faire monter en flèche les prix du carburant, eh bien ce n'est pas le cas, la hausse n'est que légère.
Michel, la situation est à nouveau tendue à la frontière avec Gaza.
Un vrai miracle, titre plusieurs journaux. Une roquette en provenance de Gaza s'est abattue sur une yeshiva de Sderot, un institut d'études talmudiques, mais sans faire de victimes. Sentiment de ras-le-bol des habitants de la région, des agglomérations israéliennes qui entourent la bande de Gaza. On n'en peut plus de vivre dans une peur constante. Chaque fois, c'est la même chose. Nous voulons un changement radical de la réalité. Et pour Mariv, il faut qu'une décision tombe, finalement. Les journaux font remarquer que ce tir de roquette isolé était inattendu, et c'est pourquoi, semble-t-il, l'engin n'a pas pu être intercepté. Il faut réagir avec force, estime Yediot Aharonot. Le journal croit savoir que le nouveau chef d'état-major israélien a un plan bien arrêté pour changer radicalement la situation. Quant à la droite israélienne, la presse le souligne, elle demande l'arrêt de toute tractation avec le Hamas, d'une manière ou d'une autre, pour tenter de trouver un accord. Eric, humeur belliqueuse donc, côté israélien.
Alexandre, les pages culturelles de nombreux journaux arabes applaudissent le couronnement du film égyptien Bein Bahrein au festival cinématographique de Brooklyn à New York.
Oui, Bein Bahrein a remporté le prix du meilleur film, mais aussi du meilleur scénario. Il a été réalisé par Anna Stolba et écrit par Mariam Naoum. Le long métrage de 88 minutes se déroule sur une petite île du Nil, avec ses paysans et ses pêcheurs, qui s'est retrouvé englouti par le Grand Caire. Le film décrit les problèmes des habitants face aux appétits des investisseurs qui veulent développer l'île et donc changer son mode de vie, un mode de vie qui n'est toutefois pas décrit comme idyllique. La question de l'asservissement des femmes par une société qui s'appuie sur la religion et le conservatisme est abordée. Le drame de l'excision en milieu rural y est notamment dénoncé.
Michel, la séparation des pouvoirs est au centre du débat électoral en Israël.
Oui, c'est le sujet qui passionne les Israéliens cette semaine. Amir Ohana, le nouveau garde des Sceaux israélien, le premier ministre ouvertement gay qui affirme que les décisions de la Cour suprême israélienne ne doivent pas être nécessairement respectées. Le ministre est critiqué bien sûr par l'establishment judiciaire. L'éditorialiste de Haaretz estime que Amir Ohana est commandité par Benjamin Netanyahou et que cette nomination est liée aux poursuites pour corruption contre le premier ministre israélien. Les deux hommes, estime l'éditorialiste, doivent être démis de leurs fonctions au plus vite. La présidente de la Cour suprême israélienne, elle, parle de ligne droite vers l'anarchie.
Et les images que vous avez retenues cette semaine ?
Eh bien, ce sont des photos liées à la Gay Pride en Israël. Eric, il y en a 28 ce mois-ci en Israël, mais la plus importante marche de la fierté vient d'avoir lieu à Tel Aviv. Haaretz fait remarquer que le gouvernement approfondit la discrimination à l'égard de la communauté LGTB et ce sont les municipalités qui lui accordent de nouveaux droits.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, Mathias Golshani, Éric Bataillon, un nouveau numéro à podcaster sur notre appli Pure Radio. Comment vit, pense et se comporte la jeunesse iranienne qui n'a connu que la République islamique ? C'est ce que nous verrons demain avec la sociologue Mahnaz Shirali, qui évoquera également l'acharnement de la justice iranienne vis-à-vis des défenseurs des femmes qui protestent contre l'obligation du port du foulard. À demain donc, dans quelques secondes, le journal.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.